Madame la République française, aurais-je le droit de dire ce que je pense? Si ce n'est pas le cas, je le prendrai comme le devoir de ma conscience. Vous savez bien que nombre de gens ne se reconnaissent plus dans la France et préfèrent s'enfuir au loin pour pouvoir y tenter leur chance. Votre république d'exclusion est une honte pour la nation, tout comme celle d'intégration qui va céder sous la pression. Vous n'avez point les armes qu'il faut pour pouvoir taire une conviction, ouvrant les vannes d'une folie que vous ne pourrez point contrôler. L'identité de tout un peuple ne peut s'écrire sur ce papier, même plastifié, les droits de l'homme ne pourront plus être protégés. Madame la République française, aurais-je le droit de dire ce que je pense? Si ce n'est pas le cas, je le prendrai comme le devoir de ma conscience. Madame la République française, qui répondra de ses doléances? Je suis ni pute ni soumis, je suis un citoyen de France. La justice, qu'en pense-t-elle puisqu'elle ne peut point s'exprimer? Elle s'exécute convenablement sous la pression de l'Élysée, mettant en cause l'un des fondements de la structure démocratique. On interfère dans les affaires quand ces dernières deviennent critiques, usant des procédés injustes des républiques bananières, comme un joker sorti de sa manche que l'on appelle raison d'État. Mais quand l'État manque de raison, c'est la balance qui penche et on se cache derrière s'injuste comme une femme sous la burqa. Madame la République française, aurais-je le droit de dire ce que je pense? Si ce n'est pas le cas, je le prendrai comme le devoir de ma conscience. Madame la République française, qui répondra de ses doléances? Je suis ni pute ni soumis, je suis un citoyen de France. Je suis ni pute ni soumis, je suis un citoyen de France. Chante des députés, on appelle au dialogue de sourds, et sa chante et sa caquette pour être le coq de la basse-cour. C'est le bordel dans cette piole, faudrait penser à faire le ménage. La dernière fois que cela fut fait devait dater du Moyen-Âge. Chacun y va de son coup de gueule, donnant ses lois incohérentes. Mais commencer par s'écouter serait peut-être la base d'une bonne entente. Messieurs les députés de France, souriez donc, vous êtes filmés, vous êtes devenus les nouvelles stars de cette France réalité. Madame la République française, aurais-je le droit de dire ce que je pense? Si ce n'est pas le cas, je le prendrai comme le devoir de ma conscience. Madame la République française, qui répondra de ses doléances? Je suis ni pute ni soumis, je suis un citoyen de France.
Canal Sud 92.2, bonjour tout le monde. Eh bien, chroniqueur ou contre-histoire, vous choisirez après hein, le titre. Nous avons déjà parlé d'art et fait parler des artistes. Eh bien, aujourd'hui, un artiste m'a proposé un beau texte qui fait autorité en ce qui concerne la définition de l'art, d'autant plus qu'il est signé Albert Camus. Et qu'il fut prononcé devant une assemblée compétente, s'il en est, à la réception du prix Nobel de littérature en 1957 à l'université d'Uppsala. Alors d'abord, quelques mots à propos de ce texte mémorable. Quelques mots pour l'ambiance. Au XXe siècle, l'artiste se trouve, nous dit Camus, embarqué dans la tourmente de l'histoire. De gré ou de force. Il se trouve témoin de son temps et ne peut pas se taire. Il est réputé engagé contre toutes les réactions, contre l'État et même contre lui-même, car l'autocensure et le doute l'assaillent. Et les médias imposent le spectacle des masses souffrantes qui refusent de se faire oublier. Alors, l'art aujourd'hui ne serait-il pas un luxe mensonger? C'est l'art pour l'art? Il peut être en effet la réponse complice, offerte comme divertissement à une société superficielle qui ne demande pas à l'artiste de défendre la liberté. Camus parle alors de fabricant d'art, qu'il oppose à Rimbaud ou à Nietzsche. L'art pour l'art, c'est pour les salons. Et ces artistes sont seuls, face au snobisme tapageur de la presse qui diffuse des ragots tout en ignorant les créateurs qui finiront étouffés. Le poète maudit, en principe, répugne au monde de l'argent. Mais il a pourtant besoin de reconnaissance. Et sans public, il s'étiole. Alors, pour fuir l'art mensonger, des artistes sont revenus à la réalité concrète, souffrante ou joyeuse, celle de tous, pour atteindre à l'universel idéal. Mais qu'est-ce que le réalisme en art? Pas l'impossible représentation de la réalité sur toile ou pellicule ou même en littérature. Il y a trop de paramètres essentiels qui y sont attachés et que l'artiste ne pourra représenter. Il faudrait tronquer cette réalité qui n'en sera plus une. Choisir. Et c'est le début de la censure. Si on rêve de réalité parfaite, il faudrait peut-être l'imaginer dans l'avenir, en élaguant bien sûr ce qui ne serait pas politiquement correct, et en magnifiant ce qui emporterait l'enthousiasme. Propagande. L'art qui sert, l'art servant. L'art asservi, nous dit Camus. L'art bâillonné, soumis à l'idéologie politique, pour un idéal soi-disant supérieur. Pour la justice, véritable ou politique. Et pour l'art, on verra après. On ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. Sinistre métaphore matérialiste axée sur des promesses douteuses. La barbarie n'est jamais provisoire. Elle génère et nourrit la médiocrité et les discours de haine font recette. L'art de commande s'étale, luxe mensonger par essence. Et l'académisme de droite ignore la misère que l'académisme de gauche utilise. L'art est nié et la misère s'en trouve augmentée. L'art pour l'art ou l'art propagande n'ont rien à voir avec l'art. L'art n'est pas un mensonge. Il se nourrit de la réalité qu'il sublime. Il est à la fois refus et consentement, c'est-à-dire déchirement multiple. J'espère ne pas avoir trahi Camus jusqu'à présent, mais quand même, pour plus de sûreté, on va revenir au texte initial. Dans la dernière partie de ce discours, où nous trouvons la conclusion d'Albert Camus sur le rôle de l'art dans la civilisation. Pour faire une nature morte, il faut que s'affronte et se corrige réciproquement un peintre et une pomme. Et si les formes ne sont rien sans la lumière du monde, elles ajoutent à leur tour à cette lumière. L'univers réel, qui, par sa splendeur, suscite les corps et les statues, reçoit d'eux, en même temps, une seconde lumière, qui fixe celle du ciel. Le grand style se trouve ainsi à mi-chemin de l'artiste et de son objet. Il ne s'agit donc pas de savoir si l'art doit fuir le réel ou s'y soumettre, mais seulement de quelle dose exacte de réel l'œuvre doit se lester pour ne pas disparaître dans les nuées ou se traîner, au contraire, avec des semelles de plomb. Ce problème, chaque artiste le résout comme il le sent et comme il peut. Plus forte est la révolte d'un artiste contre la réalité du monde, plus grand peut être le poids du réel qui l'équilibrera. Mais ce poids ne peut jamais étouffer l'exigence solitaire de l'artiste. L'œuvre la plus haute sera toujours, comme dans les tragiques grecs, dans Tolstoï ou Molière, celle qui équilibrera le réel et le refus que l'homme oppose à ce réel, chacun faisant rebondir l'autre dans un incessant jaillissement qui est celui-là même de la vie, joyeuse et déchirée. Alors surgit, de loin en loin, un monde neuf, différent de celui de tous les jours et pourtant le même, particulier mais universel, plein d'insécurité innocente, suscité pour quelques heures par la force et l'insatisfaction du génie. C'est cela, et pourtant ce n'est pas cela. Le monde n'est rien et le monde est tout. Voilà le double et inlassable cri de chaque artiste vrai. Le cri qui le tient debout, les yeux toujours ouverts, et qui, de loin en loin, réveille pour tous au sein du monde endormi l'image fugitive et insistante d'une réalité que nous reconnaissons sans l'avoir jamais rencontrée. De même, devant son siècle, l'artiste ne peut ni s'en détourner ni s'y perdre. S'il s'en détourne, il parle dans le vide. C'est au moment même où l'artiste choisit de partager le sort de tous, qu'il s'affirme comme individu. Il ne pourra sortir de cette ambiguïté. Il prend de l'histoire ce qu'il peut en voir ou souffrir lui-même, directement ou indirectement, c'est-à-dire l'actualité, au sens strict du mot, et les hommes qui vivent aujourd'hui. Mais pas le rapport de cette actualité à un avenir imprévisible pour l'artiste vivant. Juger l'homme contemporain, au nom d'un homme qui n'existe pas encore, c'est le rôle de la prophétie. L'artiste, lui, ne peut qu'apprécier les mythes qu'on lui propose en fonction de leurs répercussions sur l'homme vivant. Le prophète, religieux ou politique, peut juger absolument et ne s'en prive pas. Mais l'artiste ne le peut pas. S'il jugeait absolument, il partagerait sans nuance la réalité entre le bien et le mal. Il ferait du mélodrame. Le but de l'art, au contraire, n'est pas de légiférer ou de régner. Il est d'abord de comprendre. Il règne parfois à force de comprendre. Mais aucune œuvre de génie n'a jamais été fondée sur la haine et le mépris. C'est pourquoi l'artiste, au terme de son cheminement, absout au lieu de condamner. Il n'est pas juge, mais justificateur. Il est l'avocat perpétuel de la créature vivante, parce qu'elle est vivante. Il plaide vraiment pour l'amour du prochain, et non pour cet amour du lointain qui dégrade l'humanisme contemporain en catéchisme de tribunal. Au contraire, la grande œuvre finit par confondre tous les juges. Par elle, l'artiste en même temps rend hommage à la plus haute figure de l'homme et s'incline devant le dernier des criminels. Il n'y a pas, écrivit Oscar Wilde en prison, un seul des malheureux, enfermé avec moi dans ce misérable endroit, qui ne se trouve en rapport symbolique avec le secret de la vie. Oui, et ce secret de la vie coïncide avec celui de l'art.
Grand Hall, Grand Hall, what makes your back so brown? I've been living in the ground so darn long. To wonder I don't drown, drown. To wonder I don't drown. What makes your head so red? I've been picking your corn so darn long. To wonder I ain't dead, dead. To wonder I ain't dead. Rattlesnake, rattlesnake. What make your teeth so white? I've been sitting in the sun so darn long. You're lucky I don't bite. Well, you're lucky I don't bite. Muskrat, muskrat. What makes you smell so bad? I've been living in the ground so darn long. I'm mortified in my head, head, mortified in my head.
Nous devons savoir, au contraire, que nous ne pouvons nous évader de la misère commune, et que notre seule justification, s'il en est une, est de parler, dans la mesure de nos moyens, pour ceux qui ne peuvent le faire. Mais nous devons le faire pour tous ceux, en effet, qui souffrent en ce moment, quelles que soient les grandeurs, passées ou futures, des États et des partis qui les oppriment. Il n'y a pas, pour l'artiste, de bourreau privilégié. C'est pourquoi la beauté, même aujourd'hui, et surtout aujourd'hui, ne peut servir aucun parti. Elle ne sert, à la longue ou brève échéance, que de douleur. Que la douleur ou la liberté des hommes. Le seul artiste engagé est celui qui, sans rien refuser du combat, refuse du moins de rejoindre les armées régulières. C'est le franc-tireur. La leçon qu'il trouve alors dans la beauté, si elle est honnêtement tirée, n'est pas une leçon d'égoïsme, mais de dure fraternité. Ainsi conçue, la beauté n'a jamais asservi aucun homme. Et depuis des millénaires, tous les jours, à toutes les secondes, elle a soulagé au contraire la servitude de millions d'hommes et parfois libéré pour toujours quelques-uns. Peut-être touchons-nous ici la grandeur de l'art. Dans cette perpétuelle tension entre la beauté et la douleur, l'amour des hommes et la folie de la création, la solitude insupportable et la foule, et la foule harassante, le refus et le consentement. Il chemine entre deux abîmes qui sont la frivolité et la propagande. Sur cette ligne de crête où avance le grand artiste, chaque pas est une aventure, un risque extrême. Dans ce risque pourtant, et dans lui seul, se trouve la liberté de l'art. Liberté difficile, et qui ressemble plutôt à une discipline ascétique. Quel artiste le nierait? Quel artiste oserait se dire à la hauteur de cette tâche incessante? Cette liberté suppose une santé de cœur et de corps, un style qui soit comme la force de l'âme et un affrontement patient. Elle est, comme toute liberté, un risque perpétuel, une aventure exténuante. Et voilà pourquoi on fuit aujourd'hui ce risque, comme on fuit l'exigeante liberté pour se ruer à toutes sortes de servitudes et obtenir, au moins, le confort de l'âme. Il y a un mot de Gide. L'art vit de contrainte et meurt de liberté. C'est vrai. Mais il ne faut pas en tirer que l'art puisse être dirigé. L'art ne vit que des contraintes qu'il s'impose à lui-même. Il meurt des autres. Tant qu'une société et ses artistes ne consentent pas à ce long et libre effort, tant qu'ils se laissent aller au confort des divertissements ou à celui du conformisme, au jeu de l'art pour l'art ou aux prêches de l'art réaliste, ces artistes restent dans le nihilisme et la stérilité. Dire cela, c'est dire que la Renaissance aujourd'hui dépend de notre courage et de notre volonté de clairvoyance. Oui, cette Renaissance est entre nos mains à tous. Il dépend de nous que l'Occident suscite ses contre-Alexandre qui devait renouer le nœud gordien de la civilisation, tranché par la force de l'épée. Pour cela, il nous faut prendre tous les risques et les travaux de la liberté. Il ne s'agit pas de savoir si, poursuivant la justice, nous arriverons à préserver la liberté. Il s'agit de savoir que sans la liberté, nous ne réaliserons rien et que nous perdrons à la fois la justice future et la beauté ancienne. La liberté seule retire les hommes de l'isolement. La servitude, elle, plane sur une foule de solitude. L'art en raison de sa libre essence réunie, là où la tyrannie sépare. Quoi d'étonnant, dès lors, à ce que ce soit l'ennemi désigné par toutes les oppressions? Quoi d'étonnant à ce que les artistes et les intellectuels aient été les premières victimes des tyrannies modernes, qu'elles soient de droite ou de gauche? Les tyrans savent qu'il y a, dans l'œuvre d'art, une force d'émancipation qui n'est mystérieuse que pour ceux qui n'en ont pas le culte. Chaque grande œuvre rend plus admirable et plus riche la face humaine. Voilà tout son secret. Et ce n'est pas assez de milliers de camps et de barreaux de cellules pour obscurcir ce bouleversant témoignage de dignité. Et c'est pourquoi il n'est pas vrai que l'on puisse, même provisoirement, suspendre la culture pour en préparer une nouvelle. A dit d'une autre façon Winston Churchill pendant la guerre. On ne suspend pas l'incessant témoignage de l'homme sur sa misère et sa grandeur. On ne suspend pas une respiration. Il n'y a pas de culture sans héritage et nous ne pouvons ni ne devons rien refuser d'une autre, celui de l'Occident. Quelles que soient les œuvres de l'avenir, elles seront toutes chargées du même secret, fait de courage et de liberté, nourri par l'audace de milliers d'artistes de tous les siècles et de toutes les nations. Oui, quand la tyrannie moderne montre que même cantonné dans son métier, l'artiste est l'ennemi public, elle a raison. Mais elle rend ainsi hommage, à travers lui, à une figure de l'homme que rien, jusqu'ici, n'a pu écraser.
Thank you.
La conclusion, nous dit Camus, consistera à dire, au milieu même du bruit et de la fureur de notre histoire, réjouissons-nous. Réjouissons-nous en effet d'avoir vu mourir une Europe menteuse et confortable et de nous trouver confrontés à de cruelles vérités. Réjouissons-nous en tant qu'hommes puisqu'une longue mystification s'est écroulée et que nous voyons clair dans ce qui nous menace. Et réjouissons-nous en tant qu'artistes, arrachés au sommeil et à la surdité, maintenus de force devant la misère, les prisons, le sang. Si devant ce spectacle nous savons garder la mémoire des jours et des visages, si inversement devant la beauté du monde nous savons ne pas oublier les humiliés, alors l'art occidental, peu à peu, retrouvera sa force et sa royauté. Lorsque les mots et les phrases, même les plus simples, se paient en poids de liberté et de sang, l'artiste apprend à les manier avec mesure. Le danger rend classique et toute grandeur, pour finir, à sa racine dans le risque. Le temps des artistes irresponsables est passé. Nous le regretterons pour nos petits bonheurs, mais nous saurons reconnaître que cette épreuve sert en même temps nos chances d'authenticité et nous accepterons le défi. La liberté de l'art ne vaut pas cher quand elle n'a d'autre sens que d'assurer le confort de l'artiste. Pour qu'une valeur ou une vertu prennent racine dans une société, il convient de ne pas mentir à son propos, c'est-à-dire de payer pour elle chaque fois qu'on le peut. Si la liberté est devenue dangereuse, alors elle est en passe de ne plus être prostituée. Et je ne puis approuver, par exemple, ceux qui se plaignent aujourd'hui du déclin de la sagesse. Apparemment, ils ont raison. Mais en vérité, la sagesse n'a jamais autant décliné qu'au temps où elle était le plaisir sans risque de quelques humanistes de bibliothèque. Aujourd'hui, où elle est affrontée enfin à de réels dangers, il y a des chances, au contraire, pour qu'elle puisse à nouveau se tenir debout, à nouveau être respectée. Tout mur est une porte, a dit justement Emerson. Ne cherchons pas la porte et l'issue ailleurs que dans le mur contre lequel nous vivons. Cherchons au contraire le répit où il se trouve, je veux dire au milieu même de la bataille. Car il s'y trouve. Les grandes idées viennent dans le monde sur des pattes de colombe. Peut-être alors, si nous prêtions l'oreille, entendrions-nous, au milieu du vacarme des empires et des nations, comme un faible bruit d'ailes, le doux remue-ménage de la vie et de l'espoir. Les uns diront que cet espoir est porté par un peuple, d'autres par un homme. Il est au contraire suscité, ranimé, entretenu par des millions de solitaires dont les actions et les œuvres chaque jour nient les frontières et les plus grossières apparences de l'histoire pour faire resplendir fugitivement la vérité toujours menacée que chacun, sur ses souffrances et sur ses joies, élève pour tous.
Thank you. Thank you.
Il n'est pas inutile de rappeler que ce discours a été prononcé en 1957, le 14 décembre, donc à la remise du prix Nobel à Albert Camus. On peut, en ce début de XXIe siècle, apporter quelques variations à cette analyse nobélisée. La critique est difficile, voire impossible, avec Camus. Alors je vais sûrement m'attirer quelques foudres. Eh ben tant pis, hein, je suis là pour ça. On peut s'étonner de la façon dont Camus, l'Algérien, parle de l'héritage et de la civilisation occidentale. Est-ce le choix final de Camus en pleine gloire occidentale? On peut se poser la question, tout en refusant d'y apporter une réponse. C'est ce que je ferai lâchement. Mais c'est pas tout. La condamnation de l'art pour l'art semble aussi ne pas tenir compte du rôle salvateur, régénérateur de la beauté au milieu de la laideur du monde. Une approche artistique tient une grande part dans les psychothérapies, tant au niveau découverte culturelle qu'en création. Mais ce n'était peut-être pas beaucoup pratiqué en 57. Et on connaît des ruées vers l'art, régénératrices, chez les militants, qui se battent en continu contre la laideur et le malheur du monde. Emma Goldman, dont on reparlera bientôt, défendit vigoureusement ce droit à la beauté pour recharger les batteries des combattants d'un avenir meilleur. On a besoin de la beauté pour respirer, pour se nourrir le cœur, pour continuer à vivre et à lutter. Refuge, rêve, vitamine, indispensable. Et puis, l'art est parfois militant, purement militant. Sinon, il ne faut plus parler d'art pour Guernica, ni pour le Cinco de Mayo de Goya, ni pour les fresques de Siqueiros ou Diego Rivera. Camus mettrait-il Goya et Picasso hors du patrimoine artistique? Et les muralistes qui m'enchantent n'y seraient peut-être pas compris? Cet art militant, indispensable, pourrait s'appeler aujourd'hui l'art des lanceurs d'alerte. S'il se trouve des artistes parmi eux, et il y en a sûrement. Camus nous dit que le rôle de l'art est de communiquer l'émotion. C'est bien le cas alors, semble-t-il. Pas forcément esthétique, bien sûr. Mais pour communiquer de l'émotion, ça communique. Maintenant, la lecture de ce discours de plus de 60 ans m'a fait remarquer, je dirais presque violemment, la masculinisation du discours de Camus, que je n'aurais pas soupçonné de machisme. C'est simplement qu'on appliquait à l'époque une autre grammaire. Et j'en profite pour faire une grande risette à notre féministe toulousaine et docteur S-lettres, Nicole Pradalier, dont la brillante thèse a permis de généraliser l'écriture inclusive. Bravo, bravissimo Nicole. Et mille pardons pour ma protestation passée quand tu féminisas quelques rimes de mes racontars slamés, il y a quelques années. Depuis, tu m'as convertie.